10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une ce matin, les justifications du ministre de la Justice de Guinée. C'est au nom, dit-il, du maintien de l'ordre que de nombreux médias ont été fermés récemment par les militaires au pouvoir à Conakry. Un ministre qui était interrogé hier par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui n'a rien dit au sujet de la disparition de deux leaders de la société civile l'an dernier. Dans ce journal également, le message de Charles Blégoudé en Côte d'Ivoire qui appelle, comme de nombreux autres opposants, à un dialogue avant l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. L'Afrique du Sud et l'Algérie, qui tous les deux ont pris la parole hier à la Cour internationale de justice, CIJ qui se penche sur le blocus humanitaire de Gaza par Israël. Et puis dans quelques minutes, portrait d'Evan Guessant, l'attaquant ivoirien de Nice, c'est du football. Il est l'un des 12 finalistes du prix Marc-Vivien Fauré cette année. On appelle cela l'examen périodique universel. Tous les 4 ans, la situation de chaque pays est examinée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et hier, c'est donc la situation de la Guinée qui était sur la table. La Guinée, dirigée par des militaires depuis le coup d'état de Mamadi Doumbouya au mois de septembre 2021. Pour Conakry, c'est le ministre de la Justice qui a répondu ou pas aux interpellations sur les fermetures des médias et sur la disparition de figures de la société civile. Sabine Mélé.
Plusieurs délégués s'interrogent sur la fermeture des principaux médias audiovisuels du pays depuis bientôt un an. Des fermetures que le ministre de la Justice, Yaya Keraba Kaba, a justifiées.
Nous souhaitons qu'il soit tenu tout d'abord du contexte de la transition, qui est une période extrêmement sensible où chacun doit pouvoir faire attention à ses propos, à ses gestes. Le dérapage de certains médias nous ont préoccupés au point que des mesures préventives ont été prises dans le souci du maintien de l'ordre public.
Le garde des Sceaux n'a pas répondu aux nombreuses interpellations, dont celle de la France et de l'Allemagne sur la question des disparitions forcées. Souleymane Sow, directeur exécutif d'Amnesty International, a lui aussi relayé les demandes.
Cela nous inquiète énormément, nous interpelle encore plus, parce que ça fait très longtemps que nous demandons à l'État guinéen des clarifications, des explications.
Les autorités avaient pourtant annoncé c'est des enquêtes sur les disparitions. Il y a près d'un an, des leaders du FNDC, Fodni Kemenge et Mamadou Biloba, mais pour l'heure, aucun résultat n'a été présenté. Mêmes interrogations concernant l'enlèvement du journaliste Habib Marwan Camara, également enlevé par des hommes en uniforme en décembre dernier. Mais le ministre de la Justice a, une fois de plus, esquivé toutes les questions sur leur cas.
Et de son côté, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits humains s'inquiète également du sort de ces 3 disparus. Elle demande aux autorités guinéennes de dire où ils se trouvent. 2 recommandations principales au Mali, à Bamako, où a pris fin hier la phase nationale de consultation des forces vives du pays sur la charte des partis politiques. 2 recommandations donc. La première, dissoudre les partis politiques maliens. La seconde, élever le général Assimi Goïta, déjà président de la transition, au rang de président de la République pour un mandat de 5 ans sans organiser d'élections. La politique ivoirienne est un seul sujet central de préoccupation en ce moment, la préparation de l'élection présidentielle qui est prévue en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Une semaine désormais après que la justice a ordonné la radiation des listes électorales de l'un des principaux opposants, Tidiane Thiam, le chef de file du PDCI. Depuis donc, les appels au dialogue se multiplient. Dernière en date, le message posté sur les réseaux sociaux par Charles Blégoudé à Abidjan, correspondance de Bintadiagne.
Charles Blégoudé part d'un constat, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou encore Tidiane Thiam, les principales figures de la vie politique ivoirienne sont inéligibles. Charles Blégoudé est également radié de la liste électorale depuis 2020 en raison d'une condamnation judiciaire. Le leader du COGEP souhaite que la classe politique se retrouve autour d'une table.
Organiser ce conclave ne serait pas une faiblesse ni une défaite pour le pouvoir. Ce ne serait pas non plus une victoire pour l'opposition. Ce serait une démonstration en faveur de la paix et la stabilité.
Samedi, le comité central du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a affirmé laisser la chance au dialogue avant d'envisager, je cite, un nouveau palier dans la lutte. Côté gouvernement, cette option n'est pour l'instant pas envisagée car la 5e phase du dialogue politique est close depuis mars 2022. Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement.
Lors du dernier dialogue politique, tout le monde est convenu que les institutions de notre pays étant toutes installée et fonctionnant, il fallait se référer à elle pour les questions relevant d'elle. À partir de ce moment, je vois pas la nécessité d'un dialogue politique si c'est pas pour aller vers des arrangements qui sont pas conformes au texte. Les élections seront transparentes, elles seront démocratiques, elles seront apaisées, elles seront légales parce que conformes à la Constitution.
La publication officielle de la liste électorale est prévue le 20 juin. Bintadian Abidjan, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, la République démocratique du Congo et le président Félix Tshisekedi qui a dit hier espérer une paix véritable et définitive avec le Rwanda après l'accord de principe obtenu via une médiation des États-Unis. Accord en vue d'un traité de paix entre les deux pays. Un avant-projet est attendu pour le 2 mai, c'est-à-dire après-demain vendredi. La RDC par ailleurs qu'une partie de la force de la SADC a commencé à quitter, des soldats de la communauté d'Afrique australe, initialement déployés pour assister l'armée congolaise contre l'AFC M23. Depuis que ce groupe armé a pris le contrôle de Goma, ils étaient réfugiés, ces soldats, dans une base des Nations Unies. Et notez que leur retrait doit s'étaler jusqu'au mois de juin. L'Afrique du Sud et l'Algérie, tous les deux, ont pris la parole hier à La Haye, aux Pays-Bas, à la Cour internationale de justice. La CIJ, saisie par l'Assemblée générale de l'ONU, pour se pencher sur la situation à Gaza et sur ce qui fait Israël. L'Assemblée générale demande à la Cour de dire quelles sont les obligations de l'État hébreu. Alors qu'Israël veut mettre fin aux activités de l'UNRWA, l'agence de l'ONU spécialisée pour la Palestine. Et alors également que, depuis bientôt 2 mois, Israël empêche tout en entrée d'aide humanitaire à Gaza. Correspondance de Stéphanie Maupa.
Comme la majorité des États qui plaident depuis lundi devant la Cour internationale, l'Algérie et l'Afrique du Sud rappellent qu'Israël a l'obligation de protéger la population qu'elle occupe, c'est-à-dire les Palestiniens. C'est ce que disent les conventions de Genève. Israël ne peut faire de la famine une arme de guerre, c'est ce qu'a dit Maya Salif Adel, professeure de droit international de l'Université d'Alger.
L'aide humanitaire ne doit jamais être utilisée comme un outil politique ou une arme de guerre. Sauver des vies ne devrait jamais être un sujet de controverse. Les principes et règles du droit international développés au fil des siècles pour protéger les civils ne doivent pas être balayés.
Dans sa plaidoirie, le conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Jemion Hendrix, a appelé le monde à un sursaut.
L'Afrique du Sud partage le point de vue du secrétaire général de l'ONU, selon lequel le monde a trahi le peuple palestinien. Leur seule certitude est que demain sera pire. Nous devons donc sauver ce qui reste de notre humanité en mettant fin à l'occupation coloniale illégale d'Israël et à la famine intentionnelle dont il fait preuve envers la population palestinienne, systématiquement brutalisée et privée de la plus élémentaire considération d'humanité.
Les audiences devant la Cour se poursuivront jusqu'à vendredi. Stéphanie Mopala et RFI.
Et puis avant de retrouver Juan Gomez dans une minute, on continue ce matin de vous présenter les finalistes du prix Marc-Vivien Fauré 2025. Qui sera le meilleur joueur africain du championnat de France de football? Ils sont encore 12 en lice, dont l'international ivoirien de Nice, l'attaquant Evan Guessant. Son portrait avec Thomas de Saint-Léger.
Du haut de 1m88, Evan Guessant plane enfin sur la Ligue 1. À bientôt 24 ans, cet enfant de la balle, fils et frère de footballeur, confirme les attentes placées en lui par ses formateurs niçois. Les chiffres, 11 buts, 8 passes décisives ne disent pas tout. Il y a aussi cette présence, ce danger qu'il fait peser sur les défenses. Patrick Juillard, consultant dans l'émission Radio Foot International.
C'est un joueur qui a énormément progressé, qui s'est imposé vraiment comme un leader d'attaque, qui a pu jouer sur un côté, qui a pu jouer au poste d'avant-centre et qui a été dans les deux cas très impactant. Il a montré des qualités à la fois physiques, parce qu'il est puissant, de vitesse et aussi d'efficacité qu'il a beaucoup amélioré depuis ses débuts.
Un déclic mental aussi, international ivoirien depuis l'été dernier, Evan Guessant a trouvé un équilibre, un cadre idéal pour s'exprimer.
Il a trouvé un coach plus offensif qui lui a fait confiance. Ses débuts en sélection, cette reconnaissance-là ont compté également. Tout ça fait que maintenant il a atteint une certaine forme de maturité, même si à mon avis il peut aller plus haut encore.
Valorisé à 25 millions d'euros sur le site spécialisé Transfer Market, Evan Guessant pourrait bien agiter le mercato, le marché des transferts cet été. Des clubs anglais et allemands auraient déjà sondé l'entourage de l'éléphant.
Evan Guessant fera-t-il partie des 3 finalistes de ce prix Marc-Vivien Fauré 2025? Réponse lundi prochain. Pour le moment, il est 10h40 ici à Paris.
Et merci. Vous êtes à